drummer can swing and the boys can play.
K-U-T-T 90.3 FM.
Another reliable communication channel.
What is the
Allô, on est le Legalese Podcast qui est monté par le groupe étudiant Radla à la faculté de droit de McGill. Fait qu'aujourd'hui, on partage avec vous un extrait, un assez long extrait en fait, d'une conversation donc, entre quatre avocates praticiennes qu'on avait enregistrée le 21 mars 2022, donc pendant une espèce de panel qui s'appelait Movement Lawyering Together. Fait que vous allez entendre une conversation entre Raphaël Deving, Alia Elouni, Ari Jriahi puis Nora Demnali, qui est animée par notre amie Jeanne. Alors, bonne écoute!
Donc, je m'appelle Jeanne, je vais être une des modératrices pour l'événement d'aujourd'hui. Je suis une étudiante en troisième année ici à la faculté de McGill et je fais partie du groupe Radla qui a organisé ce panel. Radla est un groupe qui cherche à résister aux normes libérales dans la théorie et la pratique du droit parce qu'on pense que celles-ci contribuent à maintenir et à reproduire des relations sociales de domination. Donc, on participe et on organise des projets qui cherchent à défaire ces systèmes de domination, incluant, mais sans se limiter au capitalisme, colonialisme, le patriarcat et le racisme structurel. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir une conversation avec 8 avocats et avocates qui ont une pratique orientée par de tels principes de justice sociale. Tel que défini par le collectif américain Law for Black Lives, le movement lawyering exige de prendre les directions des personnes directement impactées et des organisateurs communautaires au lieu d'imposer un leadership ou une expertise au titre d'avocat. Le movement lawyering demande de bâtir du pouvoir à partir des communautés et non à partir du pouvoir du droit. Donc, avant de procéder avec l'événement, on pense aussi que c'est important de prendre le temps de se situer dans la conversation. L'Université McGill est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Gononkégaha comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles McGill se trouve. Jodjadje, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée y réside. Dans une optique plus personnelle, je suis moi-même descendante des colonisateurs français qui ont participé et bénéficié de la violence contre les peuples autochtones et j'essaie de prendre responsabilité pour les torts historiques et contemporains de la colonisation. J'essaie de contribuer à une mission de décolonisation qui n'est pas métaphorique, mais qui aura plutôt des effets réels sur le vécu des personnes autochtones affectées. Donc, on vous invite au long de l'événement et dans le reste de votre parcours de réfléchir aussi à votre positionnalité, à penser à votre responsabilité dans une quête de justice raciale et dans la décolonisation. Donc, on va débuter avec nos panélistes francophones pour aujourd'hui, Maître Nora Demnati, Maître Raphaël Deving et Maître Alia Elhouni. Donc, pour commencer, on vous demanderait, s'il vous plaît, de présenter votre pratique aujourd'hui et le parcours qui vous y a mené.
Merci. Non, parfait, je vais commencer.
Donc, bonjour tout le monde. Déjà, merci au groupe Red Law d'avoir organisé cet événement. C'est super cool. Donc, moi, je pratique à Montréal. Je fais du droit carcéral au niveau fédéral. Donc, je représente des personnes, en fait, que des hommes qui sont incarcérés au niveau fédéral, donc dans des pénitenciers. Puis juste pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le droit carcéral, ça veut dire toutes les sentences de 2 ans et plus. Et donc, je les accompagne tout au long de la sentence pour une variété de choses, donc que ce soit les libérations conditionnelles qui occupent une grande partie de la pratique, mais aussi tout ce qui est détention, conditions de détention, pardon, donc les soins de santé, les problèmes de discrimination, d'harcèlement, mais aussi carrément des poursuites contre le service correctionnel, s'il y a eu des torts de responsabilité civile, ou même des contrôles judiciaires, donc en cour fédérale, ce qui ressort du droit criminel. Donc, c'est une pratique qui est très vaste et qui englobe vraiment différentes choses, ce qui est assez stimulant parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose et chaque dossier est assez unique dans le sens où les crimes sont différents, la sentence est différente et les obstacles vont être différents selon la personne. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de la pratique. C'est une pratique aussi qui est très humaine, comme vous pouvez vous l'imaginer. Où est-ce qu'on travaille beaucoup avec... c'est directeur du relationnel avec la personne qui est incarcérée. Et c'est un domaine qui est très peu connu du monde juridique. Même beaucoup de criminalistes, jusqu'à très récemment, ne savaient pas que ce domaine de pratique existait. Je ne savais pas que ce domaine de pratique existait quand j'ai fait mon bac en droit à UDM. Je l'ai commencé il y a 10 ans, donc c'est pas si longtemps. Et je suis tombée en fait sur le droit carcéral de façon tout à fait aléatoire, dans le sens où j'ai rencontré une avocate, une des rares avocates qui en pratiquait à l'époque, qui m'a parlé du droit. Puis après mon stage du barreau, que j'ai pas du tout aimé, et on m'a pas retenue, ce qui était finalement un cadeau. J'ai décidé de la suivre pendant 2 semaines en prison pour découvrir la pratique. J'ai beaucoup aimé parce que, comme je vous dis, c'est du droit pur, tout comme étant très relationnel et très humain. Donc, vous avez vraiment les deux aspects de la médaille si c'est ce que vous recherchez. Et après avoir découvert, j'ai eu la piqûre et maintenant, ça fait 5 ans que je pratique en droit carcéral. Voilà.
Deuxième ici à m'introduire. Alors moi, c'est Alia Elhouni aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Il y a une probabilité que pendant ça, je vais comme stumble un peu avec mes mots parce que n'est pas souvent qu'à Toronto ou de 40 ans où je suis, j'ai l'opportunité de parler en français à propos de tout ce que nous faisons avec la coopérative justice communautaire. Et c'est ça où moi, je travaille depuis seulement... Ah, c'est presque 1 an maintenant. Alors ça, je suis heureuse pour ça. Mais ce qui m'a pris ici, moi, j'étais une étudiante à McGill il n'y a pas trop longtemps. En effet, moi, je suis graduée en 2018. Et puis, j'ai travaillé comme claire au cours supérieur à Toronto. Et tout ça, c'était une aventure à comprendre le système judiciaire à l'intérieur, oui, comme avec les juges, apprendre comment ils font leurs décisions, ceux qui sont vraiment les the things that pull, qui vont faire vraiment la décision à la fin de la journée. C'est ça que j'ai eu l'opportunité de comprendre comme une claire, qui était vraiment un avantage, qui me sert davantage aujourd'hui comme avocate de litigation. Et puis, après ça, j'ai pris un moment à un bureau à Toronto, un bureau de droit humain. Moi, je n'ai pas aimé ce travail de billable hours et d'avoir toujours pas l'opportunité de travailler d'une façon collaborative ou même à pouvoir travailler avec des clients qui n'ont pas assez d'argent pour mettre un retainer pour un avocat privé. Alors, c'était pas vraiment là où je voulais être pour mon carrière et j'avais vraiment la chance de rencontrer une amie, Sima Atri, qui est mon collègue au coopératif. qui commençait à ce moment, cette coopérative de droit communautaire, movement lawyering. C'est ça qui est vraiment l'enjeu et l'objectif et le but de tout ce que nous faisons avec notre coopérative. C'est d'offrir des supports légaux et de façon complètement libre pour les organisations et les communautés qui prennent des actions collectives ou solidaires en mesure de lutter contre l'injustice et les systèmes d'oppression qui existent dans notre société aujourd'hui. Alors, comme je dis, l'enjeu pour nous, c'est de travailler avec nos partenaires de façon vraiment comme ensemble. Alors, c'est nos clients, mais on les discute de la langage de partenaires parce qu'on travaille ensemble. Leurs objectifs sont notre objectif et notre travail n'est pas limité vraiment dans ses buts à des victoires légales, au moins que ces victoires traduisent à un gain de pouvoir et de capacité dans les communautés opprimées ou prendre la puissance de leurs oppresseurs. Alors, pour nous, il est bien compris que le droit est un outil dominé par les gouvernements, les organisations commerciales et privées qui bénéficient des systèmes d'oppression qui existent aujourd'hui. Alors, on tient comme objectif de supporter les mouvements libératoires et abolitionnistes à défendre contre cet outil d'oppression et au plus possible de transformer et récupérer les espaces de droit, justice et gouvernance. Alors, ça, c'est moi aujourd'hui. Je suis bien heureuse là et ouais.
Oui, ben, bonjour tout le monde. Moi, en fond, je suis avocate en droit criminel à la Défense depuis le début. J'ai ouvert mon bureau avec un ami en 2016, Élise Desmarais. Puis, depuis, on s'est joint à nous un troisième associé qui, lui, fait du droit du logement côté locataire principalement. Et aujourd'hui, là, on est plusieurs avocats-avocates. On fait principalement du droit criminel en défense, mais aussi de la DPJ du droit au logement, là, côté locataire. Je dirais que c'est un parcours qui est quand même difficile, je trouve, là, être avocate de la défense, surtout lorsqu'on a des valeurs plus progressistes, parce que je trouve, au début, j'avais quand même une vision assez idéaliste, puis on fait rapidement face à la réalité. Ou en travaillant dans le droit criminel, c'est difficile de faire changer les choses autant qu'on le souhaite. Je veux dire, on est loin de la révolution, on travaille quand même dans le système, mais on essaie de faire des différences au jour le jour. De mon côté, moi, j'ai une pratique qui est quand même diversifiée en termes d'infractions, donc je fais des dossiers quand même de presque toute nature. Des infractions contre la personne, des infractions contre l'administration de la justice, des infractions contre la propriété, de nature, de stupéfiants, etc. Et moi, ce que j'aime le plus faire, c'est des dossiers qui sont plus militants, des dossiers où il y a des questions de charte qui sont en jeu ou encore des infractions contre la personne. Je dirais que c'est les trois, ça se recoupe là, pas souvent, là, mais c'est souvent les trois domaines que j'aime le plus traiter. Puis aussi, on fait des dossiers sur l'aide juridique et des dossiers privés, c'est-à-dire qu'on a donc beaucoup de personnes, en fait, là, qui sont très vulnérables économiquement dans notre clientèle. Mais je dirais que dans l'ensemble de la population qu'on représente, là, c'est surtout des personnes vulnérables à différents égards, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé mentale, au niveau de la toxicomanie, au niveau du statut en immigration. Beaucoup de personnes racisées qui sont malheureusement extrêmement surreprésentées dans le système de justice criminelle, tout comme incarcéral. Donc, essentiellement, là, ça ressemble à ça, ma pratique. C'est ça. Donc, ça fait environ 6 ans là, que je fais ça.
Allô, je m'appelle Arij Riaï. Je vous remercie de me recevoir. Et pour l'introduction, alors moi, je pratique en droit criminel et pénal. C'est tout ce que je fais. Je fais des procès première instance. Je fais des dossiers d'appel. Et ce que je considère étant mon terrain de jeu le plus fun, c'est celui du profilage racial, ainsi que l'infraction d'entrave en travail de policier. Mon bureau, on offre des services de garde pendant la manifestation, donc les gens avant, durant, après, une forme d'action, soit directe ou une manifestation, mais quelconque forme d'action politique, on réservait notre temps au bureau pour assurer une prise en charge, là, que personne soit échappé. Ce qui m'a amené à jongler beaucoup justement avec l'infraction d'entrave, ce qui m'amène à jongler beaucoup avec l'infraction de voie de fait envers un policier, ce qui m'amène à jongler beaucoup avec les droits et devoirs face à un policier, puis à quel point une intervention peut être légale selon ou pas selon ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que je fais dans mon bureau. Cette pratique-là m'a amenée à m'impliquer auprès de la clinique juridique du Grand Montréal, qui a son chef-lieu à Montréal-Nord. Il y a pas très longtemps, on l'appelait la clinique de Montréal-Nord. On a une mission ancrée dans la lutte antiraciste. On a une mission ancrée dans la lutte au profilage racial. Puis on a une mission ancrée dans l'accès à la justice par l'éducation. Et puis, ces enjeux-là dépassent un quartier, un arrondissement administratif. Donc, on ouvre des bureaux. La clinique juridique du Grand Montréal a déjà un deuxième bureau à Côte-des-Neiges. Et puis, on travaille présentement pour un troisième bureau. Donc, voilà. Ça, c'est à travers la clinique, on offre des services de première ligne à des gens qui ne trouvent pas vraiment leur compte autrement, parce qu'ils ne sont pas en mesure de se représenter seuls, ne maîtrisent pas assez le droit pour avoir du fun à le faire, et puis se retrouvent dans une catégorie de précarité sociale où est-ce qu'ils n'ont pas vraiment un accès à un avocat pour faire ce qu'ils veulent. Et tout ça m'a amené, mon troisième chapeau est celui de la recherche depuis le confinement. J'ai passé mon anxiété à faire de la recherche. Je ne sais pas si je m'en trouve mieux, mais c'est ça qui s'est passé quand même. Donc, je fais de la recherche sur la question de profilage racial au Québec, strictement. Fait que voilà, merci.
Donc, la première question qu'on avait pour vous, c'est comment est-ce que vous réconciliez vos obligations à la profession d'avocate avec vos engagements dans des causes de justice sociale? Puis, si vous pouviez nous donner aussi des exemples de façon concrète ou pratique que vous avez trouvé d'intégrer votre militantisme dans votre pratique.
Mais en fait, c'est une super question. Je la lisais là, puis je la lisais avant la conférence, puis c'est super difficile, en fait, je trouve. Puis je ne sais pas si mes copanalystes vont être d'accord avec moi, mais on travaille en fait dans un système qui est tellement rigide et on travaille aussi avec des gens qui ont été formés de façon rigide. Donc, essayer de parler de advocacy, de sortir des sentiers battus, on se heurte tout le temps à des murs. En droit carcéral, c'est super niché. Puis les sentiers battus sont très bien battus, puis on est censé les suivre. Donc, tu sais, parler de racisme au sein du service correctionnel, alors que c'est quelque chose qui est comme aucunement débattable du moment où on a un petit teint de couleur. C'est presque crier au meurtre, mais l'enfant qui crie au loup sans raison, quand on en parle, soit au service correctionnel, aux ALC, aux agents de libération conditionnelle, à l'administration de la prison ou même à la commission de libération conditionnelle, c'est comme le grand tabou dont il ne faut pas trop parler. Puis franchement, ma réponse à la question, c'est juste d'en parler et de créer le malaise en parlant. Parce que c'est le seul moyen, puis plus on en parle, la première fois on a l'air d'une grosse folle parce qu'on est la seule à en parler, puis notre client a l'air d'un petit enragé qui veut pas se plier au système, puis c'est littéralement ça le résultat obtenu, mais plus on répète la même cassette au niveau du racisme, au niveau de l'harcèlement, parce que la commission de libération continentale ou le système en général a beaucoup de difficultés à accepter le fait que des officiers sont capables d'actes criminels en prison contre les personnes incarcérées. Le plus on le répète et le plus on devient nombreux en fait à le répéter puis à le dénoncer, plus là les oreilles deviennent attentives à la cause. Donc, la façon de le faire en droit carcéral très spécifiquement, en fait, c'est de faire des demandes qui sortent de l'ordinaire. Puis un exemple par rapport à ça, c'est j'ai un client qui a une sentence vie, qui est censé aller jusqu'au minimum, donc de déclassifier sa sécurité, par exemple, son niveau de sécurité pour aller au minimum avant d'avoir n'importe quelle sorte de libération conditionnelle, mais qui est bloqué au médium pour toutes sortes de raisons. Puis souvent, toutes ces, ces sortes de raisons, c'est du racisme systémique qui est très difficile à prouver. Mais moi, de plus en plus, en fait, je pousse pour que mes clientes fantômes vie sortent à partir du médium. Puis la première fois, comme je vous ai dit, j'ai eu l'air d'une grosse folle. Puis c'était comment, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous osez faire, mettre des natives? C'est du jamais vu. Puis là, je suis rendue à mon quatrième client sentence vie qui sort du médium directement en maison de transition. Puis c'est à chaque fois, la commission nous dit que c'est des circonstances exceptionnelles puis que ça ne se fait pas, mais ça se fait de plus en plus. Donc, c'est vraiment ça, c'est de d'oser, je dirais, puis de ne pas avoir peur d'avoir l'air folle parce que ou fou, parce que vous allez avoir l'air folle ou fou la première fois, puis vous bâtissez votre crédibilité avec vos arguments, je pense. Et donc, c'est juste de ne pas se borner ou de ne pas se mettre les oreilles, le mot m'échappe, les trucs des chevaux, là. Je pense que vous avez compris. Des oreillettes, merci. De croire que la seule façon de le faire, c'est comment on l'a enseigné, parce que la fac de droit ne vous enseigne pas comment on doit faire changer le droit. Donc, je peux en dire encore. Je vais laisser peut-être mes co-panalistes sauter là-dessus, mais ça serait ma première, mon premier jet de réponse.
OK, je vais sauter dans la mêlée aussi. Je suis d'accord qu'il faut oser. Je suis d'accord qu'il faut ne pas avoir peur d'avoir l'air folle pour la simple et unique raison qu'il faut être un peu fêlé pour faire ce métier. Je suis certaine que tout le monde le sait déjà. Il faut vraiment avoir une vocation pour continuer ce métier parce que la plupart du temps, on vous dit non. On vous dit non à ce que vous voulez faire, on vous dit non à votre position, on vous dit non à un emploi, on vous dit non à vos arguments. Ça va toujours commencer par un non, le reste vous appartient un peu. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de se casser les dents, parce que c'est comme ça que le métier se construit. En droit, maintenant, tout le monde passe par des universités, tout le monde suit le modèle du bac et ensuite le barreau. Mais sauf erreur, là, il faudrait me fact-check là-dessus, mais je pense que historiquement, la fonction d'avocat, ou en tout cas précisément la fonction d'avocat de la défense, il fallait suivre un mentor. Il fallait suivre un mentor jusqu'à temps que le mentor ou en équipe, vous décidez que vous êtes prêt, vous êtes rendu à la prochaine étape. Puis il y avait vraiment un endroit, un hôtel, où tous les avocats travaillaient et vivaient là. Et puis il y avait un apprentissage qui se faisait vraiment au jour le jour, à mesure que l'avocat se casse les dents et à mesure qu'il essaye de altérer le système. La question de concilier, c'est pas la conciliation travail-famille qui préoccupe le monde militant, c'est la conciliation valeur et puis argent. Valeur et travail. L'enjeu, c'est que nous vivons dans un système capitaliste qui fait en sorte que tout le monde doit choisir ses contradictions. Il n'y a pas une seule recette pour être militant dans le système actuel, puis il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Il faut que vous trouviez votre recette à vous, qui marche à vous. Et cette recette-là va commencer en établissant quelles sont vos fondations. Pourquoi faites-vous ces études? Quels sont les outils que vous voulez aller chercher? C'est quel groupe, quelle communauté que vous voulez aider? Quels sont philosophiquement les enjeux sur lesquels vous réfléchissez? Vous n'allez peut-être pas avoir un métier, une job, un salaire, un client qui représente tout ça, mais cette réflexion-là, si vous la faites en amont, si vous la faites avant, si vous la faites en prévention, va pouvoir vous aiguiller et vous allez pouvoir prendre des décisions qui peuvent être moins déchirantes que ce qu'on pourrait penser. Donc ça serait mon grand conseil, de voir le droit comme un coffre à outils et décider pour vous-même qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, l'adapter selon. C'est pas si vous finissez par travailler à Revenu Québec, ça ne veut pas dire que votre militantisme est foutu. Ça veut juste dire qu'il prendra une autre forme. Et on ne sait jamais quels sont les besoins au sein de Revenu Québec pour faire avancer la machine un peu plus. Puis dans cette démarche-là, je pense que la stratégie d'être radically honest, la stratégie de l'honnêteté radicale à chaque étape de votre carrière, finit par payer, parce qu'on avance ensemble collectivement à mesure qu'on refuse certaines conditions, à mesure qu'on revendique des nouvelles choses et à mesure qu'on questionne. Mais pour ce faire, C'est ça, il faut vraiment savoir où on s'en va, quelles sont nos fondations, pourquoi on fait ce qu'on fait, et puis essayer de traverser ça collectivement en étant vraiment honnête l'un envers l'autre.
Je peux rebondir, en fait, là, dans le même sens que mes collègues. Je parle plus de ma réalité, dans le fond, en tant qu'avocate de la défense. On fait face à, évidemment, beaucoup d'embûches. Une embûche parmi tant d'autres étant le système de l'aide juridique, qui, de façon inhérente, est fort problématique. Là. Si on prend simplement le fait qu'un avocat, une avocate est payé le même montant pour enregistrer rapidement un plaidoyer de culpabilité que pour faire un procès d'une journée complète après 2 ans de préparation, ça ne marche pas. C'est évident que ça encourage les plaidoyers de culpabilité rapides et pas toujours dans l'intérêt de la clientèle. De mon côté, c'est certain que j'évite de me faire prendre là-dedans, mais involontairement, inconsciemment, c'est certain que ça a un impact. C'est certain que ça a un impact aussi le fait d'avoir des clients privés, des clients qui payent un salaire qui est plus décent que les tarifs de l'aide juridique qui sont extrêmement bas. Ça, ben, c'est une machine qui est liée à tout le système de l'efficience judiciaire. Il faut aller vite, il faut être rapide, il ne faut pas gaspiller les ressources du système judiciaire. On se fait rabattre les oreilles à tous les jours à la cour avec ça. On ne peut pas reporter sans se battre pour pas que les délais soient imputés à la défense. Mais tout ça, c'est une grosse machine qui veut, en fait, que les gens ne fassent pas des procès, ne fassent pas des longues requêtes, ne fassent pas des longues auditions avec des débats au niveau des droits des gens, à l'avancement du droit. Tout ça, c'est freiné là, mais par une immense machine structurelle qui ne veut pas avoir ces débats-là. On veut que les choses soient efficaces. Mais quand on parle d'efficacité au niveau du système judiciaire, ça ne veut pas dire l'efficacité pour les justiciables, pour la personne qui est accusée. Ce n'est pas elle là, qui son intérêt est très, très difficile à faire valoir. Ça ne s'améliore pas. Là. Ça ne s'améliore pas. Puis il y a des décisions de la Cour suprême, Jordan, Cody, qui à la base sont supposés être dans l'intérêt des droits des accusés, mais la façon que le système met en œuvre ces décisions-là, c'est l'inverse complet. C'est au détriment direct des accusés. Oui, il y a certaines personnes qui se ramassent avec des arrêts des procédures, là, mais ces arrêts des procédures-là, au final, ce qu'ils font, c'est causer un immense préjudice à toutes les autres personnes. Puis ben, donc, l'aide juridique, la façon que le système est mis en œuvre. Au niveau du droit lui-même, évidemment, là, le droit, ça a été créé depuis toujours et encore aujourd'hui par les oppresseurs, par les gens en situation de pouvoir. Donc, c'est évident que le droit lui-même tend à reproduire les rapports de pouvoir de façon évidente. Mais c'est qui aussi, en criminel, les juges? La majorité des juges viennent du DPCP, ils viennent de la poursuite. Donc, la majorité des juges viennent pas de la défense, viennent pas des gens qui représentent les accusés. Et même les juges qui viennent, qui représentent les accusés, souvent viennent pas de la pratique privée non plus. Donc, la réalité des gens qui représentent les accusés de certaines façons, elle est moins mise de l'avant au niveau des juges. Puis, tu sais, je le parle en matière criminelle parce que c'est ce que je connais le plus, mais si on regarde, par exemple, au tribunal administratif du logement, c'est la même chose. Il y a comme 3 juges administratifs là, qui viennent de la défense des locataires. Les autres viennent soit de la défense des locataires, des propriétaires ou de domaines complètement par rapport. Donc, encore là, c'est évident que le système reproduit l'oppression. Puis on a beau avoir quelques voix dissidentes, des avocats, des avocates qui partent pour changer ça, des groupes communautaires, des justiciables, des gens sur le terrain qui connaissent de quoi ils parlent, qui font valoir ça. C'est tellement difficile d'essayer de changer cette machine-là. Puis, je veux dire, on parle de racisme systémique, mais il n'y a pas juste le racisme systémique aussi, il y a le racisme simple qui est perpétué par la magistrature. Parfois, là, je veux dire, moi, j'ai un client, c'est un dossier qui est très peu substantiel au niveau de la poursuite. Là, on parle d'un ticket pénal. C'est pas, les enjeux n'étaient pas si graves que ça, mais on a fait l'audience pour des raisons un peu formatrice pour une stagiaire et tout, mais on a fait une requête en profilage racial, mon client, il est d'origine arabe. Il a un nom qui a consonance clairement arabe. Il a le teint un peu basané. Le juge, un homme blanc, a dit, ben là, voyons, vous n'allez pas me plaider ça. Lui, il est blanc comme moi. Le blanc, le juge, il est bla, 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 bla. Je veux dire, c'est horrible. Ce dossier-là qui avait au final pas une si grosse implication qu'on faisait quasiment juste pour le fun parce que, bon, je connais la personne qui était accusée. C'est-à-dire, ça devient quelque chose qui est ignoble. Fait que là, ben nous, on fait une poursuite à la magistrature, mais je veux dire, qu'est-ce que ça va donner? Il va y avoir un petit sap ses mains peut-être, là, ce juge-là, puis il va partir à la retraite. Puis faire... Tu sais, c'est comme, on se retrouve dans une situation où day to day, puis tu sais, je veux dire, ça, c'est choquant. C'est sûr que c'est évidemment choquant, mais c'est quasiment un quotidien, là, de faire face à ça. Puis je veux dire, moi, je suis blanche, là, je le vis pas directement, le racisme, là, mais mes clients, mes clientes, là, mes collègues, je veux dire, c'est évident là, que le racisme, évidemment, c'est une problématique majeure, mais il y a d'autres problématiques aussi là, au niveau de l'oppression envers les gens avec des problèmes de santé mentale, avec les gens avec des problèmes de toxicomanie. Excusez, il y a mon chien qui gêne à côté, là, c'est son heure de nourriture. Là. Mais je veux dire, c'est très, très, très difficile de voir ça au day-to-day et de se retrouver face à des gens qui rient de nous, des procureurs qui rient de nous, qui ont des petits rictus, qui font, tu sais, qui nous prennent pas en considération quand on parle de la réalité de notre clientèle, même la mienne. Je veux dire, moi, à un moment donné, là, on m'a donné des dates, ça n'avait aucun sens. Puis j'ai dit, écoutez, là, ça n'a aucun sens, moi, il faut qu'on change les dates de procès, tout ça, sinon c'est ma santé qui va être affectée, ma santé physique, ma santé mentale. La procureure, elle rit de moi. Donc, je veux dire, à tous les niveaux, là, elle rit de moi en salle, là. Je l'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas rire de moi comme ça. Tu sais, c'est tellement difficile, la confrontation au day-to-day, à un niveau personnel, à un niveau juridique, à un niveau militant, à un niveau social, à un niveau pour notre clientèle. Fait qu'il faut vraiment avoir les reins solides, puis la vocation, il faut l'avoir pas à peu près, là, parce qu'en plus, sur les mandats d'aide juridique, on ne devient pas riche non plus, à moins d'aller vite et d'en faire beaucoup. Là, mais si on veut faire des procès, à moins de faire des très longs procès, c'est très peu payant et tout. Donc, il faut vouloir, mais il faut vouloir longtemps. Ça, je ne dis pas ça pour décourager tout le monde, mais je pense qu'il faut y aller en connaissance de cause. Moi, j'adore ma job, j'adore ma pratique, je n'ai pas du tout envie de changer, mais je suis têtue. Je suis quelqu'un qui est têtu, je suis quelqu'un qui me relève facilement, mais ce n'est pas une pratique qui est facile. Puis en défense, les avocates, les avocats qui sont progressifs, ils tombent comme des mouches, là. Au-delà de 5 ans, je ne connais pas beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui encore, j'ai une collègue que j'ai appris qui change de domaine de droit. Puis, comme disait Arige, c'est bien correct. Là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus en cohérence avec ses valeurs. C'est tout à fait correct. J'ai aucun jugement là-dessus. Au contraire, je la comprends. Parce que c'est une réalité qui est difficile. C'est ça. Donc, je m'égare un peu, là, puis je parle longtemps, là, mais ça pour dire, c'est pas. C'est pas facile, en fait, d'aller de l'avant avec les engagements de justice sociale, tout ça. Puis aussi, ben, quand on devient avocate, là, on plaide allégeance à l'autorité constituée. Okay? Ça fait partie de notre serment qu'on fait. Là. On plaide allégeance à l'autorité constituée. Cette expression-là, là, moi, je trouve qu'elle est quand même forte. Parce qu'après, de vouloir utiliser le droit comme outil de changement, comme outil d'avancement au niveau de la justice sociale, c'est difficile de rendre ça cohérent avec les obligations professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, qu'on ne veut pas le faire. Mais au niveau purement théorique, là, c'est pas tant cohérent. Parce que si on veut faire changer le système, ben c'est comme si on brisait notre serment. Après, je veux dire, on deal avec nos incohérences tout un chacun comme on peut. Là. Mais c'est ça. C'est donc, voilà, je vais céder ma parole.
Alors, c'est à moi, c'est mon tour, ouais. Je voulais pas commencer parce que cela, c'est un sujet auquel j'ai des avis assez forts. Alors, je voulais pas commencer trop fort là, mais moi, je suis de l'avis que, je comprends qu'il y a cette... c'est pas vraiment cohérent, ouais. Non, t'as raison. Mais, en tant que cela, je dirais que nos obligations professionnelles, il est bien possible, je dirais, il est bien possible de pratiquer comme un avocat communautaire, un movement lawyer, et respecter ses obligations. Il y a vraiment beaucoup de... il y a du monde sur des avocats qui nous opposent, qui nous dit souvent et font des accusations que nous ne sommes pas professionnels et qu'on brise le code de déontologie. Et je dis toujours absolument non. Comme vraiment, je ne suis pas d'accord. Nous travaillons dans notre code, nous observons nos responsabilités et c'est plutôt les normes, comme les normes dominantes de la droite, avec lesquelles nous ne sommes pas vraiment comme complètement alignés. Ce n'est pas les obligations professionnelles. Alors, par exemple, je dirais que vraiment ce qui est le plus radical et militant de ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'une manière collective avec nos clients, qui on comprend comme nos partenaires, et on mobilise les connaissances, les croyances communes pour créer nos arguments, rassembler la preuve et prendre des décisions. Et la loi, souvent, c'est oppressante, et oui, c'est ça, elle est bien compris que ce système est une partie de l'oppression qui se passe, mais souvent, c'est une façon dans laquelle les avocats travaillent avec leurs clients qui vraiment, ça magnifie, hein? Ça magnifie l'oppression, ça fait que c'est bien, il y a un manque d'agence, il y a une façon d'être un client ou quelqu'un qui est dans le système. Ton expérience est que tu n'as aucun pouvoir, que tes expériences, ça n'a rien à faire avec les décisions de la cour et on parle de l'accès aux justices. Et j'ai fait quelques lectures comme la semaine dernière, j'ai parlé à propos de l'accès aux cours, ce n'est pas l'accès aux justices. Il y a des cas où ça ira dans une direction de justice, peut-être, mais pas souvent. Pour la plupart, quand nous sommes devant un cours colonial et oppressif, the outcome, mon Dieu, serait plutôt injustice. Ça sera plus d'injustice, vraiment comme un système qui se reproduit, c'est la jurisprudence. Voilà, on comprend bien ce qui sera à la fin d'une décision judiciaire comme le cas. Il n'y a pas beaucoup qui va changer. Mais quand on travaille avec nos clients d'une façon où on prend vraiment leur expérience, leur identité, leur connaissance et croyance, et on le prend au sérieux et on prend nos directions d'eux, il y a une façon de la travailler qui est militante et qui est radicale et qui vraiment, ça change l'expérience pour tout le monde. Et les idées de confidentialité, de conflit et tout ça qui existe dans les codes déontologie, ce sont des protections et des droits qui restent avec nos clients. Ouais? Ce ne sont pas comme les droits du système. Si le client dit « moi, ça va, je n'ai pas besoin que tout ça soit confidentiel, moi, je veux parler avec les autres, moi, je veux que toi, que vous, vous êtes nos avocats ensemble comme collectif et on va travailler et parler et créer tous nos arguments et nos preuves et tout ça ensemble. Il n'y a rien dans ça qui est contre les codes et rien qui brise notre obligation. Et c'est ça vraiment qu'on a besoin, je crois, de parler un peu plus. Ce n'est pas à nous vraiment de toujours dire non. C'est comme Arija dit, que c'est le cours, c'est le système qui va nous dire non, toujours. À chaque fois, c'est non. Mais pourquoi nous, comme avocats, pourquoi est-ce que il y a toujours le cas où l'avocat qui dit à son client non? C'est ça qui se passe plutôt que le système. C'est l'avocat qui dit non. Alors nous, on comprend que ce n'est pas à nous de dire non. On dit toujours oui. Oui, vous voulez faire ça? Oui, on y va. Oui, on y va. On va vraiment comme créer, transformer, on va mettre les arguments créatifs, je ne sais pas, on va peut-être gagner ou perdre, mais vraiment c'est comme ça que je crois qu'on travaille d'une manière radicale, même comme avocat qui respecte nos obligations professionnelles.
Sinon, notre deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on devrait savoir en tant que futurs juristes qui travailleront au sein des mouvements sociaux qu'on n'apprendra pas à la fac de droit?
Moi, je pense que la compétence que j'aurais souhaité avoir, la formation que j'aurais souhaité avoir avant de devenir avocate, c'est plus au niveau du travail social, de la psychologie, ou de la gestion de crise, la gestion des personnes en situation de crise, de toxicomanie, de santé mentale. Je dirais que ça, c'est, j'ai appris sur le tas. J'ai encore des croûtes à manger, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout, je trouve, à aucune étape de ma formation, et qui est tellement essentiel pour ma pratique. En tout cas, là, moi, il y a une grande part de ma gestion avec mes dossiers, là, avec ma clientèle, qui est beaucoup plus de l'ordre du social que du psychosocial, que du juridique, là. Qui n'est pas nécessairement. C'est sûr, là, quand on peut, on réfère vers les personnes qui ont la formation plus adéquate, mais ce n'est pas toujours possible. Là. Puis souvent, on est le dernier rempart de la personne et tout. Et donc, dans cette. Moi, c'est vraiment ce que j'aurais aimé plus chercher. Là.
Si je peux rajouter à ça, mais j'allais justement parler de ça. Puis je pense, Raphaël, tu l'as super bien décrit là, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais. Je pense aussi tout ce qui est au niveau de la santé mentale des avocats eux-mêmes. Je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'on veut inclure du militantisme puis qu'on prend ça à cœur dans leur pratique, je pense que le burn-out est quasi inévitable, genre spoiler alert. Moi, j'en ai fait un en 2019. Je me suis rétablie, puis je pense que je suis encore en train d'essayer de me rétablir 2 ans, 3 ans plus tard. Mais je pense que c'est en fait dès le début, du coup, pour éviter ça, de savoir mettre ses limites. Puis quand on est passionné soir, jour, comme chaque seconde de la journée, puis on pense à nos dossiers, on pense à nos clients, surtout en criminel, en pénal, en tout ce qui est droit de la personne. C'est comme la misère humaine carrément. Là. Puis c'est des gens qui sont super. Marginalisés, vulnérables, qui ont beaucoup de traumas, beaucoup de difficultés, qui, comme Raphaël elle a dit, qui vont beaucoup le partager avec nous parce qu'on est souvent leur seule ressource, leur dernier rempart. Puis donc, c'est dès le début, essayer de vous encadrer de mentors qui vont pouvoir juste vous aider tout de suite à mettre des balises pour avoir un espèce d'équilibre puis de ne pas vous brûler. Parce que si vous vous brûlez, vous ne serez pas là dans 10 ans, puis les gens ont besoin de vous dans 10 ans si vous persistez, évidemment, dans le domaine. Donc, c'est vraiment ça, de juste être sensible à cette question-là, puis aux enjeux sur la santé mentale des praticiens, c'est super important. Puis j'aurais aimé le savoir quand j'ai commencé ma pratique.
Moi, c'est une question de créativité, de questionnement, que vraiment, il n'y avait pas beaucoup de... travail là-dessus à la fac de droit. Et peut-être une autre qui n'est pas vraiment limitée aux fac de droit, mais à toute notre éducation, c'est the erasure là, de la connexion à soi-même. Hein? Like, ton propre histoire, ce que vous aimez comme humaine, votre compétence et habilité hors de lire la jurisprudence et écrire les examens, les factums, parce que c'est vraiment ces compétences humaines qui seront importantes pour avoiding breakout. La connexion à soi-même est si brisée par le système qui est si violent, pas seulement à nos clients, mais à nous, et particulièrement si tu vraiment, like, you care, comme si tu es vraiment là avec vos clients, s'il y a des expériences que toi-même sont dans ton histoire ou l'histoire de tes parents ou tes grands-parents. Et c'est pour ça que toi, tu es allé à la fac pour étudier le droit, mais comme avocat chaque jour, c'est dans le système, hein? OK, it weighs on you. Alors, je crois que ce qui est vraiment, ce qui manque dans notre éducation, là, c'est le temps de comprendre et de faire la connexion avec ton histoire et le droit. Et ça, comme l'environnement du droit que tu vas entrer et dans lequel tu vas travailler, où tu vas avoir besoin d'un grounding, d'une façon de retourner à pourquoi tu es là et pourquoi tu vas continuer. Parce que, oui, sinon, c'est très facile à se perdre. Et puis, la créativité, ça va disparaître premier. Hein? Comme quand tu es on your wear down et puis tu es... la première chose que tu vas perdre, c'est l'habilité, la capacité de penser d'une façon créative. et de se battre à les normes. Alors, vraiment, je ne peux pas overemphasize comment que ça, c'est important, de garder une connexion à toi-même, de garder une connexion à ton histoire et ce qui est important à toi, parce que si, sans ça, il va vraiment être difficile, comme vraiment difficile d'être avocat avec des mouvements sociaux et de travailler d'une façon qui est sustainable.
Je ne veux pas répéter, je suis d'accord. Je le dirais en d'autres mots, les mots qui me sont venus, aller en thérapie. Parce qu'à la pointe de stress, vous allez saigner sur toutes les autres. Vous allez saigner sur vos clients, vous allez engueuler le juge, vous allez saigner sur vos collègues. Si vous pensez que vous êtes stressé maintenant pour des examens, laissez faire. Attendez de faire un procès, n'est pas préparé, tu n'as pas le choix de le faire le matin même, parce que sinon ton client est vraiment dans l'âme. Alors, même si tu as manqué de respect à toi, tu as quand même un devoir comme officier de justice. Tu penses que tu es stressé maintenant, pense à faire un procès. Je t'ai dit pas préparé. Imagine un procès où tu sais que tu ne seras pas payé. Tu sais que tu vas le gagner pour ton client. Tu sais que tu n'auras pas d'argent ce mois-là. Donc, c'est important, je pense, de se déconstruire soi avant de se dire prêt à recevoir cette quantité de stress. Je pense qu'il faut normaliser. Il faut normaliser le fait d'appeler ça une violence. Et au lieu de normaliser ça comme étant « c'est normal, ça fait partie de la job », je pense qu'il faut normaliser que c'est une violence et qu'il va falloir qu'on déconstruise ça ensemble.
Je peux rajouter, le client est au centre de tout ce que vous allez faire quand vous allez pratiquer. Puis c'est vraiment de l'impliquer en fait dans toutes les décisions qui vont être prises. Puis si je le rapporte encore une fois à la pratique, si je vous donne un exemple pour, encore une fois, pour des libérations conditionnelles, tout dans le dossier dit non, risque n'est pas assumable, il ne sort pas. Puis comme Marie a dit, il faut accepter le fait que souvent vous allez faire du travail pour lequel vous n'êtes pas payé, qui ne fait pas partie de ce qui est couvert par l'aide juridique, ou que finalement le client il vous a promis de vous payer, il ne va pas vous payer. Mais quand vous y croyez, en fait, c'est d'aller chercher les ressources que le gouvernement, que le système ne fournit pas à la personne. Puis je dis ça dans le sens où souvent, les maisons de transition, par exemple, vont refuser la candidature du client, donc il n'a pas vraiment de plan de sortie. Ben là, si on croit dans le dossier, puis on se dit que ça n'a aucun bon sens que la personne reste incarcérée, ben c'est de donner à la commission des libérations conditionnelles ce dont elle a besoin pour estimer que le risque est assumable. Donc là, on va cogner aux portes des ressources communautaires, de la famille, des amis, des professionnels en toxicomanie, en santé mentale, peu importe, qui sont prêts à soutenir la personne. Puis c'est de s'essayer avec tous les outils en main pour fighter l'incarcération prolongée du client, puis d'aller chercher ce que le service correctionnel, ce que le système ne refuse tout simplement de fournir, de donner, parce qu'eux, ils ont une analyse qui est que centrée sur le risque et qui omet complètement de regarder le problème de santé mentale ou de toxicomanie ou simplement de pauvreté parfois. Et donc, c'est vraiment de mettre le client au centre, comme j'ai dit au début, puis d'aller l'entourer des ressources communautaires qui pourraient l'aider puis qui sont disponibles.
Si on regarde en matière criminelle, quand on parle de justice alternative, moi, je vois ça à différents égards. Tout d'abord, il y a la justice alternative dans le premier sens. Est-ce qu'on doit poursuivre les gens pour certains types d'infractions? Bon, c'est sûr que moi, j'ai envie de dire non pour plusieurs infractions, mais pour d'autres infractions, c'est plus complexe. Si on regarde, par exemple, en matière sexuelle, en matière de violence genrée, en matière de violence domestique, c'est certain que c'est quelque chose qu'on veut marteler comme étant inacceptable et tout, mais est-ce que vraiment le système de justice criminelle est la bonne place pour répondre aux besoins des victimes, des survivantes, ou est-ce que justement on ne peut pas parler de mécanismes de justice alternative? Ben moi, je suis complètement dans ce sens-là. Je pense que c'est une question qui est très complexe, là, que je ne débattrai pas là, mais je pense que le système de justice criminelle répond à très peu des besoins de ces personnes-là, selon l'expérience que j'en ai du moins, là, puis évidemment, les survivantes de violences sexuelles ne sont pas toutes à mettre dans le même bateau, mais à tout événement, je ne suis pas convaincue que le système de justice criminelle est la réponse pour ce type d'infraction-là particulièrement. Par ailleurs, on parle de justice alternative, mais moi, je trouve qu'on peut faire le pont aussi avec la question du recours à l'incarcération. On utilise la détention de façon excessive. Selon moi, au Canada, au Québec, c'est effarant. Quand on regarde la question de la détention préventive, le pourcentage de gens détenus qui sont en détention préventive, donc qui ne sont pas encore condamnés, ça n'a aucun bon sens. Là, les gens qui ne sont pas remis en liberté à une enquête pour remise en liberté, alors qu'on a de multiples arrêts des tribunaux supérieurs. On a Zora récemment de la Cour suprême qui nous rappelle à quel point c'est important de ne pas donner des conditions excessives aux gens, que c'est important de les remettre en liberté, peut-être même sans conditions. On voit ça très rarement. Je veux dire, c'est fou, là. Puis après, ben, t'as le rotating door effect, les gens qui brisent leurs conditions, qui n'en finissent plus. Sinon, ben, la question des courtes peines, les gens qui sont en détention 30 jours, 10 jours, 80 jours, ça sert à quoi? Les études scientifiques démontrent que ça n'a aucune pertinence en lien avec les principes de pénalité, de sentencing. On est loin d'arriver aux fins recherchées. Puis ça, c'est selon moi et selon même la Cour suprême. En fait, dans le coup, il n'y a pas si longtemps, là, la Cour suprême commence en disant ben, la détention, ça ne sert pas vraiment son own purpose. Là, et donc, pourquoi on revient tout le temps à l'incarcération comme. La jurisprudence dit que c'est l'exception, c'est seulement qu'on n'a pas d'autres alternatives, mais les prisons sont toutes surpeuplées et ça ne va pas vers le mieux. Je veux dire, tout ça, là, c'est tellement problématique. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'on veut favoriser l'accessibilité à la justice, entre autres en permettant aux gens d'avoir une meilleure compréhension du système judiciaire, de favoriser peut-être les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, une avocate, de pouvoir se représenter seule devant les tribunaux, tout ça. Mais quand on regarde ça en matière criminelle, on est face à l'État, on est face à la police, on est face au DPCP, on est face aux procureurs qui ont des ressources astronomiques pour poursuivre les gens. C'est des avocats toujours, des avocats de carrière. Je veux dire, donc se représenter seule dans ces situations-là, c'est très difficile. Puis le droit, souvent, c'est complexe. C'est un langage à part entière, c'est un langage performatif, mais c'est aussi tout un langage complexe puis qui est fait pas pour rendre les choses simples pour les gens. Là. Il y a pas grand monde dans le système judiciaire qui a envie que ça soit facile de comprendre. Donc, tout ça, là, je pense que c'est lié.
Donc, je vais lire une des questions qui était dans le chat un peu plus haut, puis une autre qui m'était venue en privé. Je me demande quel est le rôle que les clients peuvent jouer, s'il y en a un, pour améliorer des systèmes tels que l'aide juridique, où les avocats reçoivent souvent une surcharge de dossiers qui mène à l'épuisement ou à une baisse de qualité des services juridiques reçus. Dans mon expérience, lorsque la surcharge est mentionnée à la cour, c'est plutôt mal reçu. Est-ce que votre expérience est différente? Est-ce qu'il y a quelque chose que des avocats et les clients peuvent faire ensemble à travers les démarches afin de porter attention à ce problème sans pour autant nuire à ce même cas. Puis, si vous étiez capable, pour les avocates qui pratiquent au Québec, commencer de pratiquer dans une province où le gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique.
Bon, ça m'interpelle, je vais y aller. Concernant la question de l'aide juridique, j'ai comme l'impression qu'on est au bout. Le problème, il est politique, c'est-à-dire que nous avons dépassé le moment où il faut porter la responsabilité de ça sur le client ou sur les avocats de la défense. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les avocats de la défense sacrifient leur santé mentale, physique pour subventionner un gouvernement qui ne finance pas assez la justice. La justice criminelle est un tordeur incroyable, mais qui est entièrement sous-financé. Donc, il y a vraiment des dissonances à différents niveaux. Puis, je pense qu'il y a vraiment des réformes à faire. Donc, au niveau de l'aide juridique, on a vraiment dépassé plusieurs stades. Juste avant la pandémie, les avocats de la défense s'organisaient entre eux pour essayer de revendiquer. Le dossier a avancé quand même. Le gouvernement a été d'accord de nous donner un peu plus d'argent, mais pas assez pour vraiment changer le système. Puis il n'y a toujours pas de réforme d'aide juridique de fond en comble sur la table au moment où on se parle. Donc, bref, le problème, il est entièrement politique. Sur la question du racisme systémique, je vous avoue que je suis tannée. Moi, je suis vraiment tannée parce que ça fait 2 ans qu'on parle de ça de manière théorique, comme si nous n'étions pas dans ce système-là. Je suis souvent invitée à des panels, on parle souvent de ça avec des étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire, le gouvernement ne reconnaît pas. Oui, cette conversation-là, à un certain niveau, peut nous intéresser par rapport à comment on se sent par rapport à ça, comment on tolère ou pas cette violence, mais j'aimerais ça qu'on mette à jour nos conversations puis qu'on aille de manière un peu plus profonde, c'est-à-dire identifier les manifestations du racisme systémique autour de nous. On en parle comme quelque chose de théorique, mais là-dedans, on ne parle pas d'accès à la profession. On ne parle pas de représentation des femmes noires. Combien il y a de juges noirs? Pas beaucoup. Donc ça, c'est au niveau du racisme. Au niveau des personnes non-binaires, la représentation, il y a combien d'avocats non-binaires trans pour aider sa propre communauté? Pas beaucoup. Des femmes autochtones en défense au Québec? Pas beaucoup non plus. Alors, on parle du racisme systémique comme étant une bulle théorique, alors que si on creuse un peu plus, si on regarde autour de nous, on voit les dégâts de la chose. Les femmes racisées qui quittent la pratique privée parce qu'elles sont plus capables d'avancer sans soutien. Il y en a par cohorte, il y en a plein. Maître Deving en a vu passer. Moi-même, j'en ai vu passer. Donc, il est grand temps qu'on ait une conversation sur les relations de pouvoir un peu plus proches de nous, même si je suis d'accord avec tout ce qu'on dit sur le concept théorique de la chose.
On avait des questions pour vous, Alia, sur le processus de consultation avec les organismes avec lesquels vous travaillez, puis aussi comment est-ce que vous naviguez la relation avec le manque de confiance envers les avocats. En général, par les militants.
OK. Alors, j'ai parlé un peu de ça avec une autre classe avec elle, que la consultation avec les communautés, c'est difficile, vraiment difficile. Comme il n'y a rien que je peux pas que, there's no guidebook, c'est vraiment toujours difficile. C'est un processus de communication continuel, vraiment chaque journée, chaque semaine, il y a beaucoup à faire là. Et c'est pour ça que nous avons vraiment créé la coopérative et crois qu'il est important qu'il y ait des avocats qui ont vraiment temps plein, pas temps partiel, pas comme juste comme quelques moments à la fin de la journée. Comme ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup à faire, comme dans un pro bono ou une affaire qui est un peu un dossier qui n'est pas à temps plein. Mais ce qui prend le temps plein, c'est la consultation. Et c'est comme building the relationship, c'est créer assez de confiance en vous, vraiment. Parce qu'il n'y aura jamais de confiance dans le système, dans les avocats, mais c'est la confiance en vous qui est vraiment importante d'assurer avec les communautés, les mouvements. Alors, pour moi, je ne dirais pas que pour nos clients, comme si demain, il y avait un autre avocat qui entrait, il y aura beaucoup de confiance en eux. Vraiment, c'est moi à qui il y a confiance et moi, j'ai besoin d'introduire des autres avocats qui doivent eux-mêmes travailler pour gagner la confiance du client et du mouvement. Et pour chacun de nous, dans cet espace, nous sommes humains. Il n'y a pas de respect ou de confiance qui est assumée dans le système, il y a vraiment l'opposé. Alors, il y a beaucoup de travail à faire là, qui est vraiment le travail interpersonnel et humain auquel je parlais, qui n'est pas vraiment taught au fac de droit. Alors, c'est quelque chose à travailler. Si vous êtes étudiant qui veut faire ce travail, de commencez à créer ces relations avec les communautés, avec ceux et celles que vous voulez servir. Si tu ne commences pas à faire ces relations maintenant ou tôt, il y aura beaucoup de travail à faire pour gagner leur confiance quand vous êtes avocat ou avocate et il y aura plus de suspicion qui est vraiment granted, you know? C'est honestly come by, hein, qu'il n'y a pas vraiment de confiance.
Merci beaucoup. d'avoir pris le temps. C'était super enrichissant. Puis moi, j'ai beaucoup appris.
Fait que voilà, c'était l'épisode de Legalese pour ce mois-ci. Le premier épisode a été diffusé au début de l'été. Donc, c'est une conversation similaire, mais en anglais. Il va bientôt être disponible en ligne sur notre podcast, qui est accessible sur toutes les plateformes que vous devez connaître. Là. Fait que, au mois prochain!
Good afternoon, you're tuned to Butcher T's Noontime Cuts, hitting every Friday from noon to 2, playing your wide variety of music just to make your afternoon delight just right. So stay locked at the CKT 90.3 FM.